Les colloques du Collège de France.
Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque pour l'invitation, donc Dominique Charpin et Antoine Jacquet. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler des archives paléo-babyloniennes de Chagar-Bazar, donc l'ancienne Ashnakoum. Dans un premier temps, je vais vous présenter les missions archéologiques qui ont conduit à la découverte de ces documents. Ensuite, je ferai un rappel des plus importantes informations que ces archives nous ont permis d'obtenir dans les recherches récentes, avant de passer dans un troisième temps sur l'évocation des données encore inédites et actuellement en cours d'étude, qui concernent l'année Enam Ashur, qui correspond à la période immédiatement postérieure à la fin de l'empire de Samsi-Adou, qui a suivi sa mort en l'année Tab Sili Ashur. Le site de Chagar-Bazar se situe dans le nord-est de la Syrie actuelle et il a fait l'objet de fouilles, notamment les premières fouilles ont eu lieu dans les années 30, dirigées par Max Malowan, accompagné de sa célèbre épouse Agatha Christie. Ces fouilles se déroulèrent pendant 3 ans et c'est en 1936 que les premières tablettes furent découvertes, avant qu'un lot de plus d'une centaine de tablettes soit mis au jour en 1937, ce qui conduisit Max Malowan à cesser son travail sur le site et à se diriger vers le site tout proche de Tel Brak, qu'il entrevoyait comme étant encore plus prometteur que celui-ci. Les tablettes furent édité partiellement par l'épigraphiste de la mission, Cyril Gad, mais d'une manière résumée. C'était néanmoins un tour de force, puisque les tablettes contemporaines de Marie, avec lesquelles les liens sont évidemment très forts et sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, venaient juste d'être découvertes. Donc en fait, c'était un travail qui était presque totalement novateur pour ce spécialiste, surtout de l'époque néo-assyrienne. Le régime spécial de la Syrie à l'époque, qui était sous mandat français, conduisit à un partage des découvertes entre une moitié pour la Syrie et l'autre moitié pour le British Museum. Pendant longtemps, seules les tablettes qui se trouvaient au British Museum, donc environ une soixantaine, furent accessibles et donnèrent lieu à un premier travail d'édition plus conséquent par Loretz dans les années 60. Cependant, la deuxième partie ne fut redécouverte de ce lot d'archives ne fut redécouverte que dans les années 1990, et c'est la publication de Philippe Talon qui permit de faire connaître l'ensemble de ces textes à la communauté scientifique. L'interruption des fouilles cessa avec une nouvelle mission qui commença en 1999, dirigée notamment, mission conjointe de la Direction générale des musées des Antiquités de Syrie et de l'Université de Liège en Belgique, dont la direction est celle de M. Onan Tunja, qui travailla sur le terrain entre 1999 et 2011, qui vit malheureusement l'arrêt de toute activité archéologique en Syrie du fait des événements qui s'y déroulèrent. La reprise des fouilles, évidemment, n'est pour l'instant toujours pas d'actualité. Ces fouilles ont permis notamment la mise au jour d'un complexe palatial d'environ 1 hectare, à comparer aux 2,5 hectares du palais de Marie, tout à fait conséquent sur l'acropole. Et vous voyez ici donc à la fois le lieu en rouge où furent découvertes les tablettes de par Malowan dans les années 30 et à droite de la diapositive l'emplacement des tablettes découvertes par la mission conjointe de la DGAMS et de l'Université de Liège. On a ici un schéma traditionnel, c'est-à-dire un palais ici de la ville haute, qui est d'ailleurs mentionné dans un texte, puisqu'on y apprend qu'une vache y est morte. Et donc on a la partition habituelle ville haute, ville basse, Kirum et Adachum. qui est mentionné dans une célèbre tablette éditée par Dominique Charpin, qui recense donc les travaux nécessaires à l'édification de la muraille d'une ville malheureusement inconnue. Un des apports les plus importants de ces nouvelles tablettes découvertes depuis 1999, c'est l'identification de Shahyarbazar avec Ashnakum. C'est une ville très importante de la région qui est nommée Lidamaratz, qui est mentionnée dans un célèbre itinéraire paléo-babylonien. Et grâce aux archives de Marie, on connaît un certain nombre de souverains du XIXe siècle, donc Khanilim à l'époque de Yagidlim, Hammurabi à l'époque de Yardounlim, et on sait que cette ville a fait l'objet, manifestement, d'une campagne militaire, comme d'objectif pour une campagne militaire d'un roi d'Eshnouna, un certain Naram-Sin. Les souverains du XVIIIe siècle sont aussi bien connus, de l'époque de Zimrilim, notamment, j'y reviendrai dans un instant. L'identification d'Ashnakum avec le site de Shahyarbazar est importante, puisqu'elle vient compléter l'identification d'un certain nombre de sites que les fouilles ont révélés. Il est intéressant d'ailleurs de noter que c'est grâce aux fouilles que ces sites ont vu une identification assurée, que ce soit le site d'Urkish à Tel Mozan, le site de Shubat Enlil Sherna dont on vient de parler avec le Tel Leilan, le site de Tel Brak avec l'ancienne Nagar, ou grâce aux fouilles japonaises de sauvetage, le site de Tabatum avec Tel Taban. Ça permet donc de disposer d'un nouveau point fixe assuré dans la région pour un travail sur la géographie historique qui a été mené notamment par Nelle Ziegler et Anne-Isabelle Langlois dans la série MTT. Les rois d'Ashnakum à l'époque de Zimrilim sont très nombreux. Ils ont eu des destins assez contrastés. On peut penser par exemple, puisqu'il y a au moins 7 personnes qui ont prétendu au trône, que ce soit par exemple Yagbiadou, j'y reviendrai dans un instant, ou par exemple un certain Sametar, qui, s'il eut un règne d'environ 7 ans, finit assez mal, puisque lors de l'invasion élamite, les gens d'une localité inconnue l'ont mis dans un sac et l'ont livré aux élamites, manifestement pour un sombre destin. De même, Ishméadou, qui prit sa suite, finit décapité, et sa tête fut envoyée au roi de Marie, Zimrilim. C'est donc une ville très certainement importante qui fit l'objet de multiples rivalités pour le contrôle de celle-ci. Et en effet, donc, d'après les analyses d'Onan Tunja, la ville se serait étendue au bronze moyen sur environ 80 hectares, ce qui est en fait une ville assez importante dans la région. Les archives donc, qui ont été découvertes se monte désormais à près de 500 textes, environ 120 textes découverts par les fouilles de Malowan et plus de 360 textes plus récemment. C'est donc un corpus tout à fait important qui concerne principalement le règne de Samsiadou. Et quand on compare le corpus de Marie, on est à un niveau à peu près similaire, et à un niveau plus important que les tablettes de l'époque de Samsiadou découvertes sur le site de Toutoul, donc le site actuel de Tel Biha. Les archives proviennent de deux bureaux principaux, le bureau du grain, qui concerne les tablettes découvertes par Malowan, qui était apparemment géré par un certain Adou Maguir, et un bureau de la bière, dont plusieurs responsables de l'époque de Samsiadou ont été identifiés, qui sont responsables des sorties. En voici un exemple, par exemple, vous avez ici un de ces textes typiques, qui est la sortie d'une centaine de litres de bière pour le cellier canoum, c'est-à-dire pour une consommation immédiate, par sortie autorisée par un certain Hera Tukulti, par l'intermédiaire de Samsiadou Tukulti, qui est manifestement un échanson au service du dirigeant local, j'y reviendrai dans un instant. Et ces textes ont bien entendu l'intérêt d'être tous datés par un jour, un mois et un éponyme. Et dans les découvertes récentes, c'est notamment cette documentation datée qui a permis un certain nombre d'avancées dans la question de la chronologie de l'époque éponymale, avec notamment la question, alors toujours très discutée, de l'existence ou non d'un éponyme Ariaya, mais comme il y a plus de 28 textes qui documentent cet éponyme, publié ou inédit, je suis tenté de penser qu'il existe, mais c'est un débat qui n'a pas lieu d'être ici aujourd'hui. Ça permet aussi d'identifier le mois Shaking Coussin comme étant le mois Nigaloum, le mois de la faucille, ce qui est tout à fait cohérent, puisque c'est la période de la moisson, on le sait par les textes de Marie notamment, et puis d'apprendre que pendant l'éponyme Askoudoum, il y a eu un mois 8 bis, donc des données qui n'étaient absolument pas connues jusqu'à présent par les archives de Marie ou de Toutoul. Donc tous ces textes appartiennent à ce que les chercheurs ont nommé le royaume de Haute-Mésopotamie, c'est-à-dire l'empire instauré par Samsi-Adou sur toute cette région du nord de l'Irak et de la Syrie actuelle, qui regrouperait à la fois les bords du Tigre et de l'Euphrate, et qui fut, vu sa dimension, géré à la fois donc pour la région des Kalatoum par Ishmedagan et pour la région de Mari par Yasmaradou, Samsi-Adou manifestement s'installant à Shubat Enil. Et c'est là qu'on voit l'importance des archives découvertes à Ashnakoum, donc à Chagar Bazar, c'est qu'on se situe au cœur de la haute Mésopotamie, à proximité de la grande capitale, qui elle n'a pas livré autant de textes de l'époque de Samsi-Adou qu'on l'aurait souhaité. Une des découvertes récentes aussi très importantes, c'est le système original de gouvernement que manifestement Samsi-Adou a mis en place pour gouverner cet ensemble territorial très important. Donc si on connaît bien le cas d'Ishmedagan et de Yasmaradou, apparemment il a aussi instauré d'autres individus, apparemment originaires des Kalatoum, comme le montre le cas de Sinikisham, qui était le gouverneur en fait régional de la région, supervisait en fait toutes les opérations et qui se trouvait au-dessus du gouverneur local, un certain Apilsin. Ce sont les textes à la fois découverts à l'époque de Malowan et plus récemment qui le montrent, puisque ces deux individus sont contemporains. Et le titre d'Apilsin, il est clairement indiqué dans un texte où il reçoit une ration de bière comme étant un chapitoum. Cela s'explique en fait très bien. C'est une manière pour Samsi-Adou de contrôler ces régions nouvellement conquises en s'assurant de la fidélité de ces individus qui étaient apparemment indispensables. Apilsin, on le voit en fait, va survivre, si l'identification est bonne, à la chute de l'empire de Samsi-Adou et être mentionné à nouveau à l'époque de Zimri-Lim comme homme d'Ashnakoum. Et comme un important individu de cette localité, dans une fameuse lettre à l'époque où on parle de tuer une chèvre et un chiot, ce qui n'est pas accepté puisque normalement on doit sacrifier un âne. C'est un texte qui a été publié par Dominique Charpin. Ce qui est important ici, c'est de montrer que manifestement cet individu comme d'autres, on voit le même cas aussi à Leylan, c'était des gens qui avaient manifestement des connexions locales très importantes et dont on ne pouvait pas se passer. Mais évidemment, leur fidélité était toujours sujette à caution et donc manifestement, Samsi-Adou a décidé, pour contrôler ces régions, de placer des individus qui supervisaient l'ensemble de ces gouverneurs locaux, que ce soit Ratidanoum dans la région du Sinjar, Sinikisham donc dans cette région centrale à proximité de la grande capitale Shubat Enlil, ou Sinteri dans la région de Raran. L'importance de cet individu, donc de ce Sinikisham, se montre notamment par le fait qu'il avait ses propres serviteurs, comme le montre ce sceau ici d'un certain Baltoukachid, qui était notamment responsable de diverses sorties de grains, ou bien des nombreuses femmes qui appartenaient à ce qu'on a qualifié de harem, même si ce terme est très discuté, mais en tout cas, manifestement, il avait au moins une cinquantaine de femmes à sa disposition, une épouse principale nommée Ramaroum, des épouses secondaires, et puis des petites et des grandes musiciennes, donc un total d'environ une cinquantaine de femmes, à comparer aux centaines de femmes du roi Zimri-Lim ou aux centaines de femmes, très certainement, de Samsi-Adou. Donc on voit, en fait, le même phénomène, un individu qui possède de très nombreuses femmes, mais évidemment à un niveau inférieur à celui des grands souverains de l'époque. Je voudrais maintenant vous parler des nouvelles données qui sont celles qui ont suivi la mort de Samsi-Adou et que les textes découverts à partir de 2007, ont mis au jour. Il s'agit toujours de textes de bière, donc il y a une certaine permanence de la fabrication de la bière dans la zone fouillée. Donc 28 textes, 5 étaient en fait déjà publiés, et donc il a fallu changer leur date, et 23 sont inédits. Ces textes sont très intéressants puisqu'ils mentionnent des individus qu'on connaît par ailleurs par les archives de Marie, hein, que ce soit Carnilim, par exemple, le roi d'Andaric au sud de Sinjar, Tichulmé, dont je reviendrai sur un instant, qui est le futur roi de Mardaman, qui maintenant est identifié avec le site de Bassetki, dans le Kurdistan irakien, ou bien encore des Touroukiens. Il y a encore d'autres individus, mais pour lesquels on ne sait pas grand-chose. Il est intéressant de voir qu'un responsable de la bière est mentionné dans 6 textes, un certain Shamashili, qui est dit serviteur de Samsiadou, et on verra qu'il n'est mentionné que 2 mois et que, manifestement, sa durée de vie est liée aux événements qui se produisirent, peut-être plus au sud, dans cette période très troublée qui vit la fin de l'empire de Samsiadou. Et évidemment, ce qui est très intéressant aussi, c'est le lien qu'il est possible de faire désormais avec la documentation de Marie, notamment avec la publication récente d'ARM 33 par Jean-Marie Durand, qui documente les débuts du règne de Zimrilim. Une lettre très célèbre est la fameuse lettre écrite à Tichulmé, alors qu'il ne fut jamais envoyé. Alors, très célèbre, d'une part, parce qu'elle mentionne le sceau de Zimrilim avant qu'il se considère comme fils de Yardounlim, puisqu'il est encore mentionné comme fils de Radni, et c'est cassé, mais donc avant qu'il change de patronyme, pour des raisons de légitimité du pouvoir, et qui explique en fait le projet politique qu'avait Zimrilim en revenant sur le trône. Jean-Marie Durand propose que ce texte, cette lettre et d'autres, on en possède une autre qui n'a jamais été envoyée, mais que, donc très certainement d'autres lettres circulaires furent envoyées par contre, hein, explique le projet politique de Zimrilim. Dit à Tichulmé, ainsi par Zimrilim, le pays tout entier est retourné à ses divisions patrimoniales, donc chacun va s'installer sur le trône ancestral. Voici ce que j'ai appris. Le pays de l'Idamarat tout entier, celui qui occupe les villes fortes, attend ce que va faire Zimrilim lui-même. À présent, envoyez-moi un messager, que je vienne vous jurer le fort serment par les dieux, et remettez-moi la ville, que je la donne à qui elle appartient. L'or, vous avez avec vos biens, je ne manquerai pas de vous installer là où vous me le direz. Faites-moi porter rapidement réponse à ma tablette. Elle montre donc, à la suite donc de l'effondrement de l'empire de Samsiadou, manifestement, tous les serments qui avaient été passés avec Samsiadou furent caduques à ce moment-là, du fait de sa disparition, et donc Zimrilim cherche à réinstaurer un pouvoir dans cette région qui est notamment très important pour les Simalites, tribu à laquelle il appartient. Et il est intéressant de voir que l'ensemble des responsables du bureau de la bière ont disparu. Il est aussi intéressant de noter que l'année Tapsiliachour n'est absolument pas mentionnée pour l'instant, c'est-à-dire la dernière année du règne de Samsiadou. Alors, est-ce le hasard des découvertes ou l'indication qu'il y a eu des troubles très importants dans cette région ? Pour l'instant, il n'est pas possible de trancher. C'est toujours difficile de raisonner avec l'absence de documents. Néanmoins, on voit que les responsables de la bière ne sont plus mentionnés et que c'est un certain Shamash Iloum, fils d'Abou Bakar, serviteur de Samsiadou, qui apparemment est responsable pendant le mois 3 et 4. Et quand on confronte ces dates pendant l'éponyme Enamachour avec la documentation de Marie, on voit qu'il est mentionné juste avant que Zimrilim ne s'empare, que la ville de Marie en fait chute et soit peu de temps après donc remise à Zimrilim. Et donc il est tentant de faire le lien entre ces deux mentions. D'autre part, la documentation de Shagarbazar nous indique aussi que parmi les prétendants au trône d'Ashnakoum, il y a eu un certain Yagbi Adou, qui est connu par 2 lettres de Marie, FM 6 notamment, je vais y revenir. Mais il est intéressant de voir que, et je pense qu'il s'agit du même individu, un certain Yagbi Adou recevait une ration de bière quelques années plus tôt, et il est désigné comme fils du palais, donc Mare Kalim. Donc manifestement, encore quelqu'un qui avait des liens avec le site d'Ashnakoum et pour lesquels il émit par la suite des prétentions. Donc cette lettre est tout à fait intéressante, elle montre la situation très troublée qui prévaut à cette époque. Hein, dit Azimrili, ainsi parle Yagbiadou, ton frère, la maison de Marie et la maison d'Ashnakoum ne formaient qu'un doigt unique. Autre chose, la tablette que tu as fait porter, j'en ai pris connaissance. Toi, ne vaux-tu pas mieux que les Touroukéens, bien qu'Adalcheni, le roi du Burundoum? C'est vraiment toi notre frère, et c'est nous tes frères, et même tous les Damaras, c'est ton frère. Toi, dès que tu te seras rassemblé, mets-toi en route. En outre, fais envoyer chez moi une réponse à ma tablette. Alors oui, nous nous rassemblerons à Ashnakoum. Et une lettre récemment publiée par Michael Guichard montre apparemment la suite des opérations. Yagbiadou s'est associé à Radni Tourouk et ils font à ce moment-là le siège d'Ashnakoum. Le ton est un peu plus menaçant puisqu'on apprend par cette lettre « Nous faisons le siège d'Ashnakoum. Si tu prends du retard, envoie une troupe d'hommes autant qu'il s'en faut afin qu'ils fassent sortir tes serviteurs. S'il n'en est pas ainsi, à peine aurons-nous commencé la construction d'une levée de terre que tes serviteurs mourront, te voilà averti. » Autre chose, etc. Et puis après, c'est en fait des histoires liées aux troubles qui ont eu lieu après la chute de l'Empire de Samsiadou et la volonté de récupérer des individus qui font partie de la famille. Donc manifestement, la situation n'a pas plu à Zimrilim, qui entreprit une expédition militaire, notamment pour s'emparer de la ville de Karat, et puis par la suite se diriger vers Ashnakoum, donc qui était aussi l'objectif d'un royaume du Burundoum qui se situe plus au nord, dans la région du Touramdine. On voit que Zimrilim a d'ailleurs marié une de ses sœurs avec ce roi du Burundoum, Adalcheni, qui est mentionné. Ces opérations donc eurent lieu au mois 2 et 3 de cette première année de Zimrilim. Il est intéressant de noter que c'est le moment où notre documentation va s'arrêter. Donc il est tentant de faire aussi à nouveau le lien entre cette opération militaire de Zimrilim, qui vit la prise de Karat et notamment la prise d'une partie du harem de Samsiadou, qui était gardé par un certain Yarimadou, et puis le fait que Zimrilim est ensuite, d'après la documentation de Marie, présent à Ashnakoum. Et cette fois-ci, la documentation s'arrête définitivement. Il est intéressant aussi de faire le lien avec la documentation de Leyline pour cette même période, puisqu'on possède un certain nombre de textes qui datent d'Ena Machour, qui montrent qu'effectivement, on a un certain nombre de certificats de décès qui nous sont parvenus, pour ces mois 3 à 11 de l'année Namachour, qui montrent très certainement les combats acharnés qui se déroulèrent dans cette région. Donc il est possible de faire des liens entre la documentation de Shagar Bazar et celle de Marie, bien sûr, mais aussi avec celle de Leylan, pour ces premières années qui suivirent la mort de Samsiadou. Pour en revenir à Tichoulmé, donc apparemment, la proposition ne lui a pas été envoyée, donc pour une raison pour l'instant qu'on ignore, mais ce qui est intéressant, c'est de voir c'est qu'il est présent durant cette année Ena Machour, entre les mois 5 et 7, où il reçoit des rations de bière, et c'est un personnage manifestement très important. Donc il est possible qu'un des personnages qui se soit emparé de la ville à ce moment-là, ce soit ce fameux Tichoulmé, peut-être aidé de Touroukéens, qui avait causé d'ailleurs bien des troubles à l'époque de Samsiadou en l'éponymie d'Awiliya, mais que par la suite, lors de péripéties qu'on ignore totalement, il finit par obtenir ou s'emparer du trône de Mardaman dans la région de Bassekti, puisqu'un texte daté du mois 12 de l'année Zedel 1 Karat, c'est-à-dire quelques mois, un peu plus d'un an plus tard, le montre comme envoyant des cadeaux à Zimrilim, des bottes et deux ceintures, manifestement parce qu'il s'est emparé du trône de cette ville très lointaine par rapport à Ashnakoum. Donc manifestement, la région fut vraiment l'objet de troubles très importants. On voit bien que fin de l'Empire de Samsiadou permit à un certain nombre d'individus d'espérer retourner sur le trône ancestral, ou en tout cas un trône de cette région, lors de luttes qui ne sont pas toujours connues, mais dont on voit les conséquences. En conclusion, une donnée importante, c'est que malheureusement, les textes découverts ont été mis au rebut à Shagar Bazar. Ils ne sont pas des textes, des archives en place. Mais on constate néanmoins qu'il y a très certainement un lien entre le lieu de leur découverte et le lieu de la production de la bière, puisqu'on voit que la production de la bière, enfin cette distribution de bière et cet archivage, continue entre le règne de Samsiadou et la période qui a suivi sa disparition. Ces textes sont très importants aussi bien pour la géographie historique que pour l'organisation de l'administration à l'époque de Samsiadou. Du point de vue administratif, on voit que Samsiadou aurait créé un système assez original, même s'il rappelle un des systèmes plus anciens, comme par exemple à l'époque d'Ourtrois, les Chagin et les Ansi, hein, avec cette volonté de contrôler les individus qui ont des connexions locales, mais qui ne sont pas toujours très sûrs pour un pouvoir qui parfois est assez lointain. On voit aussi quelque chose de très important, c'est qu'il y a une certaine uniformisation de l'écriture. Les textes découverts à Chagar-Bazar sont tout à fait similaires à ceux de Marie ou à ceux de Toutoul. Et j'avoue qu'en ayant vu les premiers textes de Chagar-Bazar, je pensais voir des tablettes de Marie, en fait, sur lesquelles j'avais travaillé. Donc il y avait vraiment, d'un point de vue du ductus, il n'y a pas vraiment de différence pour l'époque de Samsiadou. Donc il y a aussi une volonté d'uniformisation de ce point de vue-là, qui est manifestement très nette. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si on a trouvé un certain nombre de textes scolaires aussi dans ce complexe palatial. Et ce qui est aussi très important, c'est que pour l'instant, la confrontation de la documentation de Chagar-Bazar avec celle de Marie montre la justesse de la chronologie notamment proposée dans FM5 pour le début du règne, notamment donc pour le début du règne de Zimri-Lim, en ce qui concerne notamment Enamashur, hein, du moins dans l'état actuel de la documentation disponible. Et je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.